Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma. Le trafic a repris sur le tronçon routier Nizijina-Iga-Barrière en Ituri. Du coup, plus de 100 véhicules chargés des marchandises et des produits pétroliers bloqués durant une semaine sur cette route sont arrivés hier à Bunia. La société civile locale salue les travaux de réhabilitation de ce tronçon et plaide pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. La coordination de la société civile Force Vive s'engage à réaliser un contrôle citoyen du processus électoral. C'est après avoir constaté plus de failles que des points positifs lors de l'enrôlement des électeurs à travers le pays, dit-elle. Déclaration faite à la presse hier à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour. Commençons par cette bonne nouvelle. En Ituri, plus de 100 véhicules transportant des marchandises et des produits pétroliers bloqués pendant une semaine sur le tronçon Nizijina-Iga-Barrière sur la nationale numéro 27 sont arrivés hier à Bunia. Cela grâce aux travaux de réhabilitation de ce tronçon lancés la semaine dernière. Selon la société civile locale, cela va permettre de réduire le prix des produits de première nécessité et des vivres sur le marché. Elle plaide néanmoins pour la poursuite des travaux sur toute la partie qui s'est dégradée ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens contre les menaces d'attaque des groupes armés. Ézéchiel Mouzalia.
Le trafic sur le tronçon routier Nizi-Iga-Barrière jusqu'à Jina sur la route nationale numéro 27 est à nouveau fluide depuis quelques jours, constate la société civile locale. 100 véhicules de marchandises bloqués pendant plus d'une semaine sur cette route ont repris le chemin après la fermeture des nids de poules qui rendaient les tronçons impraticables. Une dizaine de trous qui étaient visibles sur la chaussée ont disparu. Cependant, les tronçons Matete, Aché jusqu'à Pimbo ne sont pas encore réhabilités, ce qui constitue un calvaire pour les usagers cette route, déclare la société civile locale. Son président Dino Gédéon plaide pour la poursuite des travaux le long de cette route.
Il y avait deux grands trous d'Alinzi qui sont tous rembrayés. Il y avait un trou à Sayo qui est aussi rembrayé. Ils ont déjà fait des Iga-Barrières jusqu'à Jina, qui nous arrive jusqu'à Pimbo parce qu'à Makete aussi ça n'en va pas. Même si le grand courbe de Aché vers Pitsola aussi ça n'en va pas.
La société civile lance également un appel au gouvernement pour la sécurisation des agents de l'entreprise en charge de la réfection du tronçon Nizi-Iga-Barrière et de celle des usagers qui sont sous la menace permanente des attaques des groupes armés sur cette route. Bunia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Restons sur les routes. Ici à Kinshasa, cela fait plusieurs mois que la route principale, appelée route de la Deuxième République, est dans un état de délabrement très avancé. Conséquence, les habitants de la commune de Kimbanseke vivent un véritable calvaire pour se déplacer. Chris Bandundu Kapalai nous en parle dans ce reportage.
Située entre le cimetière de Kimbanseke et la place Sainte-Thérèse, la route de la Deuxième République, comme on l'appelle, est dans un puté état. Chaque jour, la population de ces coins est dans l'obligation de faire de longues distances à pied pour atteindre Sainte-Thérèse en vue d'attraper un transport pour se rendre soit au travail ou à l'école. Selon les témoignages recueillis sur place, les délabrements avancés de cette voie est surtout dû aux travaux de placement des tuyaux d'adduction d'eau vers l'usine de Lemba Imbu par la régie des eaux. Chauffeur de son état, Hugues Petit explique la souffrance qu'il endure au quotidien.
Nous, dans la commune de Kimbanseke, nous souffrons dans cette route. La route est mauvaise, à partir de Sainte-Thérèse jusqu'à arriver sur notre tronçon de Kimbanseke cimetière. Nous demandons aux autorités de la ville d'avoir pitié de nous.
Jean-Pierre Kiasala, un autre habitant de Kimbanseke, suivez son témoignage.
Cette route était passable jusqu'au moment où les gens de l'adduction d'eau sont venus, ces Coréens ont cassé les macadam à partir du cimetière jusqu'à Dokolo. En contrepartie, ils n'ont rien fait.
Les habitants des Kimbanseke disent attendre impatiemment l'intervention des autorités.
Je vous l'ai dit dans les titres, les acteurs de la société civile Force Vive de la RDC s'engagent à réaliser un contrôle citoyen du processus électoral et à entamer les contacts avec les acteurs politiques et autres parties prenantes en vue de s'assurer de la crédibilité du processus électoral en cours. La coordination de la société civile Force Vive l'a annoncé dans une déclaration faite à la presse hier à Kinshasa. Elle dit avoir exercé une surveillance du processus d'enrôlement des électeurs à travers le pays et constate plus d'écueils que des points positifs dans les zones zone opérationnelle. Maître Jean Bosco Lalo, premier vice-président et porte-parole de cette structure citoyenne, s'exprime dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
Nous, acteurs de la société civile, nous nous engageons dès maintenant, à travers tous nos membres, à réaliser le contrôle citoyen à cet effet et entamer des contacts avec les parties prenantes en vue d'obtenir des avis et considérations sur les questionnements suivants. 1. Les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées ont-elles une certaine garantie dans cette condition? 2. Si le doute sur l'aboutissement heureux du processus ainsi commencé persiste chez la plupart d'acteurs politiques et sociaux, quant à l'objectivité et la vérité de la part de la CENI, que faire pour échapper au chaos? 3. Que doivent faire les acteurs de la société civile?
Dans la province de la Tchopo, le mécanisme de la justice transitionnelle évolue en dents de scie. Un certain nombre d'obstacles s'érigent sur son chemin. C'est en vue de remédier à cet état de choses qu'un forum consacré au mécanisme judiciaire a été organisé hier à Kisangani par la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle, CCJT en sigle. Ce forum a réuni les organisations de la société civile ainsi que les médias. Pour Raphaël Wakenge, coordonnateur de la CCJT, le manque d'informations sur la justice transitionnelle en serait la cause principale. Raphaël Wakenge est au micro de Jacques Mkonkole.
Le concept lui-même est très très peu connu des acteurs et ceux qui connaissent ce concept ne le matérialisent pas de manière attendue. Il y a certaines personnes qui pensent que la justice transitionnelle vient remplacer la justice classique et on confond cette dynamique à une institution. Il y a d'autres personnes, surtout ceux qui sont dans les églises, qui pensent que ça vient pour pardonner ceux qui ont trempé dans les crimes. Cette compréhension diverse pose un problème. Nous avons besoin que les gens aient une même compréhension, comprennent de quoi il s'agit, comprennent l'intérêt qu'il y a à matérialiser la justice transitionnelle dans la Tchopo.
Dans l'actualité aussi, le cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier en République démocratique du Congo tient sa toute première réunion ce jeudi 20 avril à Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, selon un communiqué de presse du Conseil président de veille stratégique, CPVS. La mise en place de ce cadre de concertation vise à instaurer un dialogue permanent et participatif entre tous les acteurs impliqués dans la gestion des secteurs extractifs en RDC. La même source précise que ce premier rendez-vous du cadre national de concertation des parties prenantes du secteur minier réunira plus de 150 participants. Elle permettra de discuter des défis de la modernisation de l'exploitation minière artisanale en RDC, causes et pistes de solutions. Et puis, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a lancé hier à Kinshasa la première édition de la compétition interprovinciale dénommée SDG Action Awards RDC. Il s'agit d'un concours des jeunes qui vont proposer des solutions innovantes pour le développement de leur milieu à travers le pays. Les meilleurs projets recevront des moyens pour leur réalisation. Cette compétition rentre dans le cadre de l'initiative Giraude, jeune rapporteur des objectifs du développement durable. Initiative mise en place par le PNUD pour encadrer les jeunes volontaires afin de s'engager au développement durable. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités ainsi que des partenaires du développement. Grâce Amzati, reportage.
Au cours de cette cérémonie, Damien Mama, représentant résident du PNUD en RDC, a invité les jeunes à saisir cette opportunité afin de travailler pour le développement durable du pays. Pour sa part, le directeur de cabinet et représentant de la ministre d'État en charge du plan a témoigné du soutien du gouvernement à cette initiative. Marcel Kanda.
L'initiative Giraude, que soutient activement le ministère du plan, constitue ainsi, au travers l'Observatoire congolais de développement durable, une opportunité de collaboration stratégique du système des Nations Unies avec la jeunesse congolaise pour l'atteinte des objectifs de développement durable par la création d'un écosystème dynamique impliquant une diversité d'acteurs, dont les jeunes, pour la coordination des interventions de développement.
Tout en saluant cette initiative du PNUD, Chantal Yelumoulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, a plaidé pour l'implication des jeunes à toutes les initiatives du développement, notamment au programme de développement local des 145 territoires en tenant compte de la parité. Pacifique Mupemba, représentante des Géraudes, a exprimé l'intérêt de la jeunesse en participant à cette compétition.
Nous contribuons en proposant des solutions innovantes pour le changement de nos communautés respectives.
Notons que ces jeunes ont un mois pour soumettre leurs projets.
10 ans de science et de technologie au service de la jeunesse, c'est le thème de la 10e édition cette année de la Semaine de la science et des technologies en RDC, organisée par l'association sans but lucratif, Evancing in People. L'ouverture de cette édition a eu lieu le samedi 15 avril à Mbanzangungu au Congo central, où un village des sciences a été installé à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanzangungu. Il s'en est suivi une journée de conférences à l'Université du Congo, toujours en Mbanzangungu. À Kinshasa, hier, il s'est agi de la 2e journée de conférence, une journée qui a connu la présence du commissaire en charge de l'enseignement, les sciences, la technologie et l'innovation de la Commission de l'Union africaine, ainsi que du ministre congolais de la recherche scientifique et innovation technologique. Jacques-Yves Molima, reportage.
Depuis la première édition, la Semaine des sciences et technologies s'est toujours focalisée sur la jeunesse. Et l'initiatrice, Madame Raissa Malou, de revenir ici sur ce qu'a été sa vision et sur ce qui est déjà fait.
Développer en Afrique une culture scientifique et technologique, promouvoir les savoirs et savoir-faire dans ces domaines et surtout susciter des vocations. Nous avons réussi à établir un réseau d'une vingtaine d'équipes dans 12 provinces de la RDC qui organisent des activités en parallèle dans leur région.
Une initiative louable pour la RDC, a souligné le commissaire de l'Union africaine, Mohamed Beloussine.
L'Union africaine apprécie hautement l'initiative de la RDC et considère cette semaine scientifique comme une initiative exemplaire pour montrer aux autres États les bonnes pratiques en matière de développement d'une culture scientifique et technologique dans notre continent.
L'occasion pour le ministre Gilbert Kabanda de la Recherche scientifique d'annoncer l'apport du gouvernement congolais dans ce secteur.
Pour ma part, j'informe le public par le lobbying de mon ministère, les lignes budgétaires du secteur de la recherche scientifique ont été élevées à 1% du budget national, conformément aux standards exigés.
La clôture interviendra le samedi prochain.
Direction le Nord Kivu. Le commandement de la force régionale de l'EAC a organisé mardi un voyage de presse dans les zones où elle est déployée. Des journalistes congolais et étrangers ont visité le territoire de Nyiragongo et le groupement Gisigari dans le Rutshuru pour observer le retrait des rebelles du M23. Selon des témoignages recueillis dans la zone, les hommes du M23 restent visibles, habillés en tenue civile, ce qui justifierait le retour timide des déplacés qui préfèrent rester dans les sites au nord de Goma en attendant, disent-ils, le déploiement de l'armée congolaise dans leur village. Rosalie Zawadi.
Pour la première étape de ces voyages des presses, les journalistes partis de Goma sont arrivés à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo et visités même les bureaux du territoire. Dans les territoires de Rutshuru, ils ont visité la population de Rugari et les camps militaires de Rumangabo. C'est dans ces camps que les contingents kényans et sud-soudanais ont installé leur base. Les commandants du contingent kényan, les lieutenants-colonels au bureau, rappellent la mission de la force régionale.
Le travail qui nous a été donné ici était premièrement de contrôler les zones et ensuite travailler avec nos compagnons des FRDC pour neutraliser l'ennemi. Nous devons aussi veiller au respect de la loi. Une autre mission que les chefs d'État nous ont confiée est de faciliter aux agences humanitaires l'accès dans ces zones pour acheminer l'assistance dont la population a besoin.
Selon les témoignages recueillis dans les villages, plusieurs hommes du M23 ainsi que des militaires rwandais seraient présents. Les habitants ajoutent même que des positions rebelles situées sur les hauteurs des collines dans cette zone n'auraient pas été démantelées. Et c'est cette situation qui justifie les retours très timides des populations déplacées dans la zone malgré les déploiements de la force de l'EAC d'après les mêmes témoignages. Nombreux déplacés disent attendre l'arrivée des FRDC dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo avant de regagner la zone. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale. L'armée soudanaise et son rival paramilitaire ont chacun annoncé qu'ils respecteraient un cessez-le-feu de 24 heures à compter de mercredi soir, ce après l'échec d'une précédente tentative de trêve la veille. L'armée a déclaré dans un communiqué que la trêve avait commencé à 18 heures locales mercredi hier à des fins humanitaires et durerait jusque ce soir de jeudi selon que l'autre partie adhère à ses dispositions. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.